l'actualité.
L'émission des étudiants de l'UVSQ,
Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines.
Factualité.
Les loisirs.
Les actus.
Les bons plans.
Le monde. Le cinéma.
La cuisine.
Les expositions.
Les soirées.
La culture.
Factualité.
Marmite FM 88.4.
Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Marmite FM 88.4 dans votre émission Factualité, l'émission des étudiants de l'UVSQ. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Nous espérons que vous allez bien et êtes fin prêts à passer une heure sur les ondes marmitiennes en notre compagnie. Un rapide tour de table, aujourd'hui au studio nous avons Antoine, Marvin, Caroline, Tina et Julien. Salut la team Factu, comment ça va ?
Ça va, super.
Très très bien.
Au programme de cette émission, comme à l'accoutumée, nous commencerons avec les actus de l'UVSQ. Ensuite, Antoine, Marvin et Caroline nous parleront des élections présidentielles américaines. Julien va nous parler de l'actualité sur les migrants. Et Tina nous parlera de la traduction en justice d'un agriculteur ayant aidé des réfugiés à la frontière franco-italienne. Alors, ce programme vous intrigue ? Installez-vous confortablement dans votre siège, car c'est parti ! Commençons donc avec les actus de l'UVSQ. Alors, une info qui va réjouir les étudiants tintinophiles. Est-ce que parmi les chroniqueurs, vous, il y a des tintinophiles ?
Tintino quoi ?
Ah, tintinophile.
C'est fan de Tintin ?
Oui, c'est ça. Très bien, Julien. L'UVSQ organise un jeu, le Go Expo, qui vous permet de gagner des billets pour l'exposition Hergé au Grand Palais. Cette exposition... revient sur la carrière donc, de cet illustre dessinateur. Et l'exposition sera visible du 28 septembre au 16 janvier 2017. Et donc, pour tenter et espérer gagner des billets pour cette exposition, ce qu'il vous faut, c'est remplir le formulaire, c'est-à-dire aller sur la page internet de l'UVSQ à l'onglet Go Expo. Et vous avez juste à remplir un formulaire pour participer et tenter de gagner ces billets. Ça vous botte, cette expo ? Oui, Marvin ?
Ouais, moi je suis un grand fan de Tintin.
Un grand tintinophile, tu peux le dire.
Je savais pas ce que ça voulait dire, mais maintenant je sais que je suis Tintin, tintinophile.
Je sais que je suis Tintin.
Non, en réalité, je sais pas si j'irai, mais ça a l'air vraiment intéressant. Et c'est bien qu'on remette un petit peu sur le tapis Tintin, parce que c'est un classique incontournable.
Ouais.
Voilà.
Ok. Eh bien, je passe à la seconde info. Le service culturel s'associe au Café Conf Moka et propose la projection du film documentaire demain, après la conférence Culture et Climat avec Anna Marinos, qui se tiendra le jeudi 1er décembre. Demain, c'est le César du meilleur documentaire en 2016. Je vous lis le synopsis. Alors que l'humanité est menacée par l'effondrement des écosystèmes, Cyril, Mélanie, Alexandre, Laurent, Raphaël et Antoine, tous trentenaires, partent explorer le monde en quête de solutions capables de sauver leurs enfants et, à travers eux, la nouvelle génération. À partir des expériences les plus abouties dans tous les domaines, agriculture, énergie, habitat, économie, ils vont tenter de reconstituer le puzzle qui permettra de construire une autre histoire de l'avenir. Cette projection sera suivie d'un débat animé par Pascal Maugis, chercheur en modélisation du climat et des ressources en eau au sein du laboratoire des sciences du climat et de l'environnement. Et les associations ICAR et SEMKIPE seront également présentes. Et donc je vous répète, tout ceci se passera le jeudi 1er décembre 2016 à 17h30 à la maison de l'étudiant dans la salle de représentation. Venez, c'est gratuit et vous vous rendrez compte de tous les enjeux liés à cette problématique environnementale et climatique. La troisième info, un petit tour de table. Vous, chroniqueur, est-ce que vous étiez au courant que des élections des représentants CROUS auront bientôt lieu ? Oui, Caroline ?
L'information était relayée partout et étant l'année dernière faisant partie d'une association Centre d'Insyndicat étudiant, je sais de source sûre que oui, ça a lieu. Mais tout le monde en parle et il y a plein d'affiches, les syndicats sont sur les dents, ils font leurs propos et tout ça. Donc ouais.
Ok. Oui, Marvin ?
Pendant un moment, j'ai cru qu'il allait parler des élections américaines. J'ai un petit peu flippé, alerte au spoil, mais ça va, en fait, c'est bon, tout va bien.
Non. Donc moi, je vous parle des actus de l'UVSQ, donc les élections des représentants CROUS. Donc c'est le mercredi 23 novembre 2016 que ces élections auront lieu. Et donc faites entendre votre voix pour élire vos représentants au CROUS de l'Académie de Versailles. Les bureaux de vote se trouvent dans les différentes structures du CROUS, les restaurants universitaires, les résidences universitaires et les brasseries. Donc, à quoi servent ces représentants du CROUS ? Ils participent au bon fonctionnement de la vie étudiante. Donc, par vie étudiante, il faut entendre les logements, les aides sociales et les aides d'urgence, la restauration et les services culturels. Ces représentants représentent les étudiants, leurs opinions, leurs idées, leur volonté de changement et leurs suggestions. Et donc, ils sont élus pendant 2 ans et ils portent donc la voix des étudiants. Et donc, chaque jour, pour vous, cela vaut le coup d'aller voter car il y a beaucoup de choses qui sont en jeu. Et donc, ma dernière info, le samedi 3 décembre 2016, c'est la journée des masters et du doctorat de l'Université Paris-Saclay. Et donc, durant cette journée, venez découvrir l'ensemble de l'offre de master et de doctorat qu'offre l'Université Paris-Saclay. Cela se tiendra à l'Université Paris-Sud. Donc, pour les masters, c'est de 10h à 17h dans le bâtiment des examens. Et donc, vous pourrez rencontrer les enseignants-chercheurs de tous les établissements et discuter de votre parcours. Et vous pouvez aussi y découvrir les nouvelles opportunités comme les bourses internationales et les diplômes et le statut étudiant-entrepreneur. Et pour le doctorat, c'est de 10h à 16h au bâtiment 338. Et donc, c'est ouvert aux étudiants de Master 2 et Master 1. Vous pouvez venir et vous informer sur le doctorat et les modalités de candidature. Je répète donc la journée des masters et du doctorat de l'Université Paris-Saclay, c'est le samedi 3 décembre 2016 à l'Université Paris-Sud. Voilà, c'est tout pour cette chronique Actu de l'UVSQ. Vous êtes toujours avec nous sur Factualité, l'émission des étudiants de l'UVSQ. Eh bien, je vais passer la parole à 3 chroniqueurs, car ces trois chroniqueurs vont nous faire partager le retour sur les élections présidentielles américaines. Je passe la parole à Antoine. Antoine, c'est à toi.
Comme vous le savez, suite au dépouillement du 8 novembre 2016, Donald Trump vient d'être élu après le vote des grands électeurs. Il est le 45e président des États-Unis et sera réellement investi le 20 janvier 2007 lors de l'Inauguration Day. Le chef d'État américain est désigné au suffrage universel indirect après de nombreuses étapes électorales. Il faut savoir qu'aux États-Unis, 2 partis dominent la vie politique, les républicains et les démocrates. Je vais donc vous expliquer le fonctionnement du système électoral américain, car on va voir qu'il est totalement différent du système français. Chacun des partis désigne donc son candidat à la présidentielle à l'issue de votes populaires appelés primaires. Leur nomination est officiellement entérinée lors des conventions nationales des 2 partis pendant l'été, donc quelques mois avant le jour de l'élection. L'élection du président des États-Unis n'est pas une élection directe comme en France, par exemple. Le président, là-bas, est élu par suffrage universel indirect. Les citoyens votent donc pour élire les membres du collège électoral dans chacun des 50 États, plus le district de Columbia, qui comprend également la capitale Washington, D.C. Ce sont donc ces grands électeurs-là qui élisent le futur président des États-Unis. Le nombre de grands électeurs attribués à chaque État équivaut à celui de ses sénateurs et représentants au Congrès. Et ce nombre varie en fonction de la population de chaque État. Le plus peuplé, à savoir la Californie, compte ainsi 55 grands électeurs, contre 3 pour les États moins peuplés, comme l'Alaska par exemple. La plupart des États impliquent la règle du « winner take all », c'est-à-dire que le jour de l'élection, le candidat qui arrive en tête dans un État rafle l'ensemble des voix des grands électeurs de cet État, et donc une simple majorité suffit. À la suite de ça, le candidat ayant recueilli le suffrage d'au moins 270 grands électeurs est donc élu président. Et c'est donc le cas de Donald Trump qui a remporté l'élection avec 306 votes contre seulement 232 pour Hillary Clinton. Et il est important de noter que Hillary Clinton a obtenu 55,9 millions de voix, c'est-à-dire 200 000 de plus que son rival. Mais avec le système des grands électeurs que je viens de vous expliquer, cela n'a que peu d'importance sur le résultat.
Merci Antoine pour cette explication.
Il n'y a pas de souci.
Et donc j'enchaîne, je donne la parole tout de suite à Marvin. Marvin qui va nous parler du programme de Trump et de l'inquiétude de la presse, c'est bien ça?
C'est un petit peu ça. Alors j'ai intitulé ma chronique « Il ne faut pas avoir peur de Trump ». Récemment élu, donc le 45e président élu des États-Unis, Donald Trump, milliardaire businessman, craint de tous, sera pendant les 4 prochaines années le leader de la plus grande puissance économique. Bien que le résultat soit sans appel, il suscite de forts débats autour du globe. Un passé douteux, un programme quasi inexistant et des propos plus que tendancieux, Trump est-il l'homme à craindre ? 2 points essentiels sont à prendre en compte et méritent qu'on s'y attarde.
Tout d'abord, des mesures qui ne sont pas forcément réalisables. Cette fantasque idée de monter un mur à la frontière mexicaine semble impossible à réaliser. On le rappelle, le mur existe déjà en certains points de la frontière, mais ce que veut Trump, c'est le rehausser, c'est-à-dire le rendre plus grand et le rallonger. Un projet trop coûteux et trop long, près de 3000 km de frontières à couvrir pour un budget total d'environ 12 milliards de dollars. Good luck pour les trouver, monsieur Trump. Ensuite, il n'est pas possible de construire ce mur sur toute la longueur pour des raisons d'urbanisme et d'environnement. Certains espaces sont protégés et d'autres sont tout simplement inconstructibles. Après, un autre point, les accords de la COP21. Comme le note Armel Lecomte, chargé des questions climatiques pour l'ONG Oxfam, à peine élu, Trump a prononcé un discours qui se veut plus rassembleur qu'on ne l'aurait cru. Il sait qu'il existe tout de même une tendance sur les marchés de l'énergie et que cette tendance ne s'oriente clairement pas vers le charbon et le pétrole. Le traité de Paris prévoit aussi que les pays peuvent dénoncer les accords dans un délai de 4 ans, dont un de préavis. En réalité, ils peuvent faire ce que bon leur semble de cet accord, mais ils risquent de se mettre à dos, c'est le cas pour les États-Unis, beaucoup de grandes entreprises qui ont compris qu'il y avait de nombreux marchés à prendre dans le domaine des énergies renouvelables. De plus, et là je souhaite citer France Info, les Américains sont de plus en plus préoccupés par les phénomènes climatiques violents à leur encontre, comme les ouragans Katrina, Sandy et d'autres phénomènes de violente sécheresse. Autre point à souligner, il va quitter ses habits de candidat pour ceux de président, et ce n'est pas chose aisée. S'il ne s'est pas fixé de limite pendant sa campagne, le président Trump va forcément devoir changer de comportement. C'est la fonction qui va l'obliger. Après avoir beaucoup divisé pendant sa campagne, il va devoir rassembler. Rappelons-le, il débute en politique et va devoir devenir président. En ce moment même, à l'heure où nous enregistrons l'émission, il est reçu à la Maison Blanche et j'ai une info RTL qui est tombée tout à l'heure. Il a dit, à propos de son entretien avec Barack Obama, « Je suis impatient de travailler avec lui. » On verra ce que ça donne. Ses premiers mots, rappelons-le, après sa victoire, ont connoté un changement de position. Il était beaucoup plus neutre, plus apaisant. Depuis son QG de campagne à New York, le candidat a d'abord félicité Hillary Clinton. Je recite France Info. Il dit à son sujet, elle a travaillé très longtemps et très durement. Les États-Unis doivent être redevables envers elle. L'heure est venue pour l'Amérique de penser les plaies de la division. Je connais le potentiel de notre pays. C'est énorme. Chaque personne aura la capacité d'utiliser ce potentiel. Personne ne sera laissé de côté. Bon, ceci dit, ce n'est que le début, et comme le dit l'adage, qui vivra verra, mais gare à vous, Mr. President Trump, Big World is watching you, de très près.
Merci Marvin. Moi j'aimerais faire un rapide tour de table, voir vos réactions, chroniqueurs, face à ce qui vient d'être dit. Oui, Antoine ?
Non, je trouve que c'est super intéressant ce qu'il a dit, parce que même si Donald Trump a des idées très, on va dire, strictes, c'est clair qu'il ne pourra pas faire tout ce qu'il envisage. Et qu'il y aura une certaine restriction, on va dire.
Il est certes un peu extrémiste, mais je trouve qu'on le diabolise un peu trop. Dans le sens où il en joue beaucoup pour être plus charismatique, et c'est notamment pour ça qu'il s'est fait élire, parce qu'il était beaucoup plus charismatique qu'Hillary Clinton. Après, voilà, tout ce qu'il a dit, il ne le fera évidemment pas. Peut-être qu'il le fera, et là on sera mal. Mais voilà, il est peut-être un peu trop diabolisé, surtout en ce moment, et je trouve ça un peu fort. Quand même.
Mm-hmm. Oui, Marvin.
En fait, ce qui est intéressant de souligner, c'est le fait qu'il y a des choses qui sont irréalisables et dont on ne doit pas avoir peur. Donc, de son côté, effectivement, un petit peu xénophobe ou ses propos très conservateurs et très, très tendancieux, je l'ai dit. Mais c'est par rapport à toute cette histoire avec les médias qui en font peut-être un peu trop. Tout ça, évidemment, ce sont des faits, des actions. Le mur est une action concrète. Mais après, il est important de s'interroger sur est-ce que c'est possible ou non.
Oui, Julien.
Oui, c'est en partie réalisable, c'est vrai. Mais pour ce qui est du mur, déjà, il me semble qu'il est déjà en partie en place. Par le gouvernement Bush, il me semble, à l'époque. Et il me semble aussi qu'il veut faire payer le mur par le gouvernement mexicain.
Oui, alors chose donc, encore plus fantasque. voilà,
Oui, mais le gouvernement mexicain qui a intérêt à garder ses citoyens dans son territoire. Donc ça pourrait peut-être, il pourrait peut-être y avoir des accords entre les deux gouvernements pour effectivement fabriquer un mur.
Effectivement, oui.
Même si c'est cher. Ils peuvent se répartir les tâches et ça pourrait être
faisable. Oui, c'est vrai, tu as raison. C'est un bon point à souligner, tiens, j'avais pas pensé ça.
Ok, bah merci pour vos réactions. On va terminer ce sujet sur une note un petit peu plus légère, on va dire, avec Caroline, qui va nous parler des réactions sur Twitter des Français face à ces élections présidentielles américaines.
Alors, à mon tour, pour détendre un petit peu l'atmosphère quand même et revenir sur le fameux sujet de l'élection présidentielle dont tout le monde parle en ce moment, j'ai décidé de l'aborder avec vous, mais avec une petite touche d'humour. Je vais vous résumer mes petits tweets préférés que j'ai trouvés et qui sont apparus après l'élection pour décrédibiliser la victoire de Trump. Toujours dans une optique bon enfant, évidemment. Alors, déjà, pour commencer, les plus sérieux, mais qui m'ont tout de même bien fait sourire. Alors, le premier, c'est « Ça va être sympa le G7 en 2020 avec Donald Trump, Marine Le Pen, Poutine, Daesh, Voldemort, Palpatine et Sauron. » Voilà, les grands méchants loups se rassemblent et je trouve ça plutôt drôle.
Bonne ambiance. C'est quand la date
C'est 2020. 2020 premier rendez-vous, là. Hein, attention, entre Sauron et Voldemort, on va y arriver. Alors, le deuxième que j'ai trouvé, c'est selon Denis Carter... Avec une petite touche d'humour noir tout de même. Si c'est Donald Trump qui gagne, ce sera la première fois qu'un milliardaire emménage dans un logement public laissé vacant par une famille noire. Celui-là, bon, il y a une petite touche d'humour noir, mais je le trouve plutôt pas mal quand même. Franchement,
j'ai la ressort ce week-end, celle-là.
Franchement, j'aime bien. Bon, alors, sinon, sous la forme d'autodérision, que je trouve plutôt pas mal non plus, donc ça serait Donald Trump qui a écrit sur Twitter « Je cherche à former un gouvernement, il n'y aurait pas un tuto ou un truc du genre sur YouTube ? Merci d'avance !» Voilà, ouais. Parce que bien évidemment, pour ceux qui ne savent pas, Donald Trump n'a jamais rien fait dans la vie politique, n'a jamais été élu, il sort juste de télé-réalité et a fait une petite carrière de catch aussi, mais bon, ça je vous laisse chercher par vous-même. Alors, sinon, certains restent plus simples et lancent des tweets du style... Ma femme qui me réveille en me disant que Trump est président, raison de plus pour me laisser dormir. Bon, voilà. C'est assez léger, hein, mais bon, je trouve ça, voilà. Alors, d'autres voient les choses sur un ton un peu plus grave, tout en restant drôle. Ça va être sympa la passation de pouvoir quand Trump va serrer la main d'Obama pour l'expulser des USA parce qu'il pense qu'il est musulman. Bel avenir en vue. Voilà, je vous laisse suivre tout ça. Bon, alors, aussi, il y en a d'autres qui restent vraiment, vraiment plus drôles. Du style, en tant que Portugais, je ne peux que me réjouir de l'élection d'un homme qui promet de construire un mur de 1600 km. Voilà, les Portugais, si vous nous entendez, il y a une proposition d'emploi.
Il est déjà dans la promesse d'embauche.
Promesse d'embauche, là, je vous dis pas. Ou encore, et celle-là, je l'aime beaucoup, pour tous les fans du cinéma, première mesure de Trump, changer l'hymne américain pour la marche impériale de Star Wars. Ouais, voilà.
Qu'on touche pas trop à Star Wars non plus. Hein.
Et enfin, mon petit préféré pour la fin, de la part de Yanis sur Twitter. Trump, il a été élu par hasard, on dirait le Portugal à l'euro. Voilà, donc le Portugal n'aurait jamais dû nous voler le trophée, hein, parce que ça reste encore en travers de la gorge.
Et paf, prenez ça les Portugais.
Ouais, les Portugais en prennent un peu pour leur grade, mais en même temps, ils l'ont bien mérité. Voilà, je vous ai présenté quelques petits tweets qui m'ont bien fait rire, toutes seules derrière mon téléphone. Mais bon, le plus important est évidemment de retenir qu'il faut prendre tout cela sur le ton de l'humour et que même si cette élection me fait que parler d'elle par la peur qu'elle crée, cela ne reste maintenant qu'une affaire à suivre.
Merci Caroline. C'est au tour de Julien. Julien qui va nous parler de l'actualité sur les migrants.
Oui. Alors depuis quelques semaines, voire quelques mois, la police multiplie les arrestations de migrants. Ces derniers sont ensuite envoyés soit dans des camps de rétention, je reviendrai là-dessus un peu plus tard, soit directement dans leur pays d'origine. Cette traque est issue de la volonté de notre ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, qui veut mettre fin, je cite, à l'errance éternelle des migrants. Donc je répète, il veut mettre fin à l'errance éternelle des migrants. Errer, c'est être égaré sans avoir de direction précise. Éternel veut dire que le phénomène n'a pas de fin, mais qu'il n'a pas de commencement non plus. Comme si l'exode n'avait pas de raison. Comme si l'exode ne pouvait pas s'expliquer. Parler de ces demandeurs d'asile comme des migrants, c'est détourner l'attention des garanties juridiques dont ont besoin les réfugiés. Comme par exemple, la protection contre l'expulsion, ou pour se prémunir de certaines sanctions pour avoir traversé une frontière sans autorisation. La confusion entre réfugiés et migrants vise à affaiblir le soutien de l'opinion publique, voire même à créer un rejet unanime envers ces réfugiés. Ils ont des droits, qui sont d'ailleurs garantis par l'ONU. Il est donc tout à fait légal de demander asile à partir du moment où le demandeur encourt un danger potentiellement mortel dans son pays d'origine. Seulement, officiellement, la France n'a pas l'argent suffisant pour accueillir toute cette vague de nouveaux exilés. Ils sont environ 80 000 et viennent de Syrie, du Darfour, d'Érythrée, d'Afghanistan. Alors pour nos économies, les étrangers sont priés de retourner chez eux. Mais avant, on les parque dans des camps de rétention. Là-bas, selon plusieurs témoignages, comme La Voix du Nord ou Mediapart, leurs affaires sont comptées et rangées dans un casier. Ils sont filmés en permanence, sauf dans leur chambre, et doivent demander à un policier pour changer de chaîne. Les interprètes ne sont présents que sur demande. L'aide aux migrants est également très restreinte puisque certains membres d'associations ont été convoqués au tribunal pour organisation de manifestations illicites. Si toutefois vous souhaitez apporter votre aide à ces migrants, réfugiés ou exilés, il existe plusieurs associations comme le collectif de la Chapelle Debout ou encore le collectif parisien de soutien aux exilés. Vous pouvez aussi vous renseigner sur les missions possibles sur le site jemengage.paris.fr.
Merci Julien. Un petit tour de table pour avoir vos réactions, mes chroniqueurs favoris. Oui, Tina ?
Mais je trouve que c'est un scandale ce qui se passe. Voilà. Et je trouve qu'il faut que, voilà, que le gouvernement sorte de sa passivité et que voilà, si aussi voilà, tous les citoyens pouvaient faire quelque chose à leur propre échelle, et ben, peut-être que ça changerait un peu la situation d'aujourd'hui. Mais
tous les citoyens ne sont pas d'accord sur ce cas.
Mais c'est déjà une grande partie, ceux qui sont d'accord pouvaient faire quelque chose, ne serait-ce qu'un petit geste pourrait faire avancer, je pense, les choses.
Okay. Oui, Marvin ?
Oui, dans ce sens, on rappelle que... Enfin, je ne fais pas partie d'une association, mais il n'y a pas de petit geste. Je pense que toute chose est bonne à prendre et à donner. Après, ça passe aussi dans la prévention. Tous les citoyens ne sont pas d'accord, bien, l'objectif serait de leur prouver le contraire, de les mettre d'accord sur le sujet, en les prévenant des risques, de ce qui se passe, pour les rallier un petit peu à la cause. C'est peut-être quelque chose qu'on n'en fait pas assez. J'en profite, on a parlé des actualités tout à l'heure, et ça me fait penser que mardi 15 novembre, au Théâtre de Saint-Quentin, à 19h30, il y a une conférence justement sur ce que c'est que d'être migrant et immigré au 21e siècle. C'est organisé par les étudiants de l'UVSQ qui font la modération. Donc voilà, ça peut être intéressant pour ceux qui veulent y venir. Personnellement, j'y serai. Les étudiants ont besoin de soutien aussi, donc c'est bien pour les encourager. Il y aura du beau monde. Je sais que les intervenants sont des gens très capables, très engagés. Voilà, merci.
Merci pour cette info, Marvin. Nous enchaînons avec Tina. Tina, tu veux nous parler de l'action d'un agriculteur ?
Oui, je vais vous parler d'un agriculteur français qui est poursuivi en justice pour avoir aidé des réfugiés à la frontière franco-italienne. Donc, c'est monsieur Cédric Kérou, qui est agriculteur dans la région du Val-Roya, donc qui sera prochainement jugé pour aide au séjour irrégulier. Donc, son véritable tort, eh bien, c'est d'être venu en aide à des migrants qui cherchaient à traverser la frontière italienne. Donc, ce membre de l'association d'aide aux migrants Roya Citoyenne, donc qui est un agriculteur de 37 ans, eh bien, sera jugé le 23 novembre prochain. La raison, eh bien, son association a occupé une ancienne colonie de vacances abandonnée de la SNCF afin d'y mettre en place un centre d'accueil et d'hébergement pour les migrants recueillis temporairement par l'association. Donc, ce lieu hébergeait plus de 50 personnes quand même. Donc, eh bien, sur demande du département et de la région PACA, donc ce centre d'accueil de fortune a été démantelé. Et bien sûr, plusieurs migrants ont été reconduits à la frontière. Et puis surtout, Cédric Héroux, notre agriculteur, a été arrêté et encourt désormais 5 ans de prison et 30 000 euros d'amende. Donc on peut se demander pourquoi ? Pourquoi les citoyens aujourd'hui qui veulent agir mais pour aider et pour venir en aide aux migrants, eh bien, se heurte à une passivité des autorités, eh bien, qui pousse bien sûr certains à passer à la désobéissance civile. puisqu'on dit France, terre d'asile. Mais qu'en est-il réellement ? Voilà.
Oui, Marvin.
Là encore, on est vraiment dans des cas qui sont nouveaux et qui sont aberrantes. Vraiment, être condamné à une telle somme d'argent pour une action qui se veut humanitaire, c'est moche. C'est vraiment moche.
Tina ?
Après, je ne sais pas si c'est vraiment quelque chose de nouveau, puisque par exemple, la jungle de Calais, on a l'impression que voilà, c'est quelque chose de nouveau, puisque ça a été vraiment médiatisé ces derniers temps, mais ce n'est pas apparu comme ça depuis, par magie, c'est là depuis très longtemps, et ça a été laissé, voilà, il n'y a pas eu d'action.
Je suis entièrement d'accord avec toi, je parlais d'aider des migrants comme ça, un petit peu, pas clandestinement, mais avec une action un peu solitaire, comme ça.
Oui, Julien.
Juste pour dire qu'il faut arrêter de déshumaniser ces migrants en les faisant passer pour des fraudeurs. Voilà.
Bien, merci Tina, merci à tous pour ces chroniques. Voilà, l'émission touche à sa fin. Nous remercions l'UVSQ, Marmite FM, Nouradine et Fred à la technique de nous permettre de nous exprimer sur les ondes. Retrouvez-nous la semaine prochaine avec toujours plus d'actu et de chroniques estudiantines. D'ici là, restez
cultivés. Factualité.
L'émission des étudiants de l'UVSQ, Université de Versailles, Saint-Quentin-en-Yvelines.
Factualité.
Les loisirs.
Les actus.
Les bons plans.
Le monde. Le cinéma.
La cuisine.
Les expositions.
Les soirées.
La culture.
Factualité.
Marmite FM 88.4.